Chaque dimanche, nous célébrons Jésus et nous racontons un épisode de ce qui s'est passé dans sa vie, ou plutôt un épisode par lequel Jésus vient nous rejoindre. Eh bien, aujourd'hui, nous célébrons Jésus, parole éternelle du Père, qui nous a parlé il y a 2000 ans, qui continue à nous parler par son évangile. Alors, c'est beau de lire le tout début de l'évangile de Saint-Luc. C'était le début du passage d'aujourd'hui. Saint-Luc a enquêté. Il a rencontré un certain nombre de témoins, dont très probablement la Sainte Vierge Marie. Ça se passait quelques années après la Pentecôte. Il a collationné une série de récits qu'il a vérifiés, un peu comme une grande enquête journalistique, qu'il a mis par écrit avec son style très érudit et pur. Mais bien sûr, il priait l'Esprit-Saint et l'Église a reconnu dans cet écrit l'Évangile de Jésus, véritable, écrit sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. La deuxième partie de l'Évangile que nous avons entendu, c'est au chapitre 4, après tous les passages de l'Annonciation de Noël et du baptême de Jésus. De retour à Nazareth, à 30 ans, Jésus, qui a commencé à accomplir quelques miracles, lit le livre d'Isaïe, un des nombreux rouleaux de l'Ancien Testament, conservé dans cette synagogue de Nazareth, comme dans toutes les synagogues, et lui, parole vivante, qui avait éclairé les prophètes dans l'Ancien Testament, lui, parole incarnée, dont les Juifs entendent la voix, ils l'entendent proclamer un passage qui le concernait lui-même et qui avait commencé à se réaliser à travers les miracles et les prédications de Jésus. C'est beau d'avoir ce texte pour le dimanche de la parole de Dieu. C'est beau d'avoir entendu au préalable d'autres lire un autre rouleau de la loi. Cette fois, c'était au retour d'exil. Les Juifs avaient été migrants, probablement dans des conditions terribles de quasi-esclavage. Ils avaient eu du mal à se rassembler pour prier. Ils retrouvent Jérusalem, ils retrouvent la lecture solennelle de la loi. Ils en pleurent d'émotion et de joie. Et Esdras, après avoir lu et laissé les scribes traduire dans l'araméen que les gens comprenaient quand ils ne comprenaient plus l'hébreu, un peu comme le latin pour nous, qui le comprenons peut-être pas très bien, il faut traduire en français, eh bien, cette parole les a émus, touchés jusqu'au plus profond. Ce dimanche, nous savons que c'est aussi le dimanche de l'unité des chrétiens. Cette parole, nous l'avons entendue spécialement au temple jeudi dernier, c'était au temple arménien évangélique, à côté de la cartoucherie, et ceux qui l'ont vécu d'abord comme cette joie que décrit le livre de Néhémie, mais aussi dans des interrogations réciproques. Qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que nous vivons et que nous pouvons dire? Alors, parmi les surprises, il y avait un texte solennel du symbole de Nicée-Constantinople avec une traduction dite œcuménique qui nous a permis de voir des mots un peu différents qui renouvelaient notre façon de recevoir le credo, mais peut-être qui nous a interrogés parce qu'il y avait quelques manques sous prétexte de ne pas gêner. Alors, je vous invite à regarder notre grand symbole de Nicée-Constantinople que nous proclamerons tout à l'heure. regardons-le avec ce coup d'œil œcuménique. C'est un trésor que les autres églises proclament elles aussi, même s'il peut y avoir des traductions un peu différentes ou des difficultés qui subsistent. Regardons-les aussi, ces mots de notre credo, avec fierté et enthousiasme, parce que c'est notre trésor que nous sommes chargés non seulement de recueillir avec toute notre intelligence et d'essayer de comprendre davantage, et puis de proclamer. Recueillir avec intelligence, au passage, je vous dis un petit secret, ce qui s'est passé à la réunion des équipes qui mettaient les PowerPoint sur les écrans, ça se passait un mois avant le premier dimanche de l'Avent, pour dire comment allons-nous dire cette nouvelle traduction, comment les chrétiens vont-ils pouvoir la recevoir. Et il y a un mot qui a agacé certains, que nous dirons tout à l'heure ce mot, le mot consubstantiel, et la première réaction, ça a été non seulement l'étonnement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils nous ont encore inventé? Je retransmets juste ce que j'ai entendu. Alors, après réflexion, il a été dit que, après le temps de l'Avent et de Noël, on expliquerait ce mot et un peu plus le credo. Eh bien, c'est le jour aujourd'hui. Avant, nous disions que Jésus, Fils éternel de Dieu, alors après avoir dit « Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur », il y a peut-être un étonnement déjà de replonger « Il est Dieu né de Dieu », ce Jésus que nous avons vu apparaître il y a 2000 ans dans notre humanité. En fait, de toute éternité, il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière. Et un peu plus loin, de même nature que le Père, c'est ce que nous disions. Et c'était pas faux, mais c'était quand même un peu lointain comme traduction. Parce que, par exemple, nous sommes les uns et les autres tous de la nature humaine. Et pourtant, quand je vous vois, vous êtes tous différents. Avec quelques points de ressemblance, j'ai des cousins qui me disent quelquefois « Tu ressembles de plus en plus à ton père ». C'est peut-être parce que j'ai plus beaucoup de cheveux et que papa, effectivement, était un peu comme ça. Mais d'autres points, et physiques et de caractère. Maintenant, Dieu est Père parfait et il donne tout. Et le Fils éternel ressemble pas un peu, mais il ressemble totalement au Père éternel. Alors, le mot que les théologiens du 3e, 4e siècle ont trouvé, c'était consubstantiel. C'était dit d'abord en grec, puis en latin, et maintenant en français. Dire ressemblance totale, c'est dire tout correspond, c'est vraiment identique, la même identité, la même substance. Mot compris au sens des philosophes, hein, pas des cuisiniers, bien sûr. Alors, consubstantiel, ce mot, nous le dirons, je pense que nous avons déjà compris avant même que j'essaye de vous l'expliquer, mais nous essaierons de ressembler davantage, nous qui, au baptême, avons été plongés dans la vie trinitaire, est-ce que nous ressemblons à Dieu, ou est-ce que nous ressemblons à tous ceux du monde qui font un peu trop de choses contraires à l'amour de Dieu? Quand je disais des mots un peu différents, un peu plus loin dans le credo, je dis, nous avons dit, l'Église, une, sainte, universelle et missionnaire. Universelle, c'est presque le même sens que catholique. Et missionnaire, c'est presque le même sens que apostolique. C'est bon d'être réveillé par des mots un peu différents. Et là, au fond, il n'y avait aucune contradiction. C'est beau de dire notre Église dans sa catholicité, c'est-à-dire ouverte à tous, et aussi avec toutes les dimensions que Jésus lui a données, y compris le trésor confié à Pierre et ses successeurs, les papes. C'est ainsi que nous comprenons la catholicité et que, je crois, nos frères séparés le reconnaissent très largement eux aussi. Il y a maintenant avec les orthodoxes, une petite différence sur l'Esprit Saint vers 1054. Les Grecs orthodoxes s'étaient fâchés quand ils ont vu que, à Rome, depuis quand même 200 ans à l'époque, on disait que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Ils ont dit non, l'Esprit Saint, il procède du Père. J'ai été vérifié dans des sites orthodoxes qui disaient on n'a rien contre le Père et le Fils, mais on préfère dire il procède du Père. De fait, c'est l'Évangile. Dans Saint Jean, chapitre 15, 26, Jésus dit, qui dit « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai, il est bien présent, d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père. » Dans ce petit verset, nous reconnaissons la position orthodoxe, l'Esprit qui possède du Père, nous reconnaissons une précision supplémentaire apporté par les théologiens catholiques et toute la tradition, l'Esprit-Saint est l'amour même du Père et du Fils. Il est la communion d'amour qui unit les deux et dans laquelle nous-mêmes, nous sommes invités, nous grandissons et nous transmettons aux autres. Alors, puissions-nous non seulement balbutier notre foi, mais plutôt la proclamer flairement, la dire en la comprenant de plus en plus, la dire entre nous, mais la dire surtout par bribes à ce monde qui connaît un peu Dieu, mais qui a tellement besoin de le connaître pleinement. Amen.